ça sur le sujet d'aujourd'hui qui préoccupe tout le monde, ce qui se passe en Iran. Quelle est votre lecture de ce qui se passe aujourd'hui, de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran? Quel est le jeu finalement américain? On voit bien qu'il y a très peu de chances que ce soit religieux. Qu'est-ce qu'ils cherchent finalement? Vous renégocier cet accord et
Je pense que c'est pas une problématique religieuse. Je suis pas. Bon, j'ai été en poste en Iran, la région m'intéresse, je regarde ça de près, mais enfin, je suis pas qualifié pour parler ex officio sur le sujet. Je vais peut-être plutôt vous donner des éléments de réponse. Je dois dire que j'ai du mal à décrypter la rationalité de la politique étrangère de M. Trump. Premièrement, autrement que celle de tenir des promesses de campagne dans une optique pure de politique intérieure. Et deuxièmement, je crois qu'il faut avoir à l'esprit, quand on parle de la relation entre les États-Unis et l'Iran, ou du regard américain sur l'Iran, il faut avoir à l'esprit le traumatisme qu'a représenté pour l'Iran le président Trump, que nous n'avons pas subi. On a une relation très compliquée avec l'Iran. J'étais 4 ans numéro 2 là-bas, j'ai 4 ans, j'étais 2 ans chargé d'affaires, parce qu'on rappelait les ambassadeurs qui avaient des crises diplomatiques. Mais on n'a pas eu cette traumatisme, c'est quand même une ambassade prise en otage. C'est quelque chose d'énorme par rapport aux règles du droit international. Et vous imaginez la superpuissance mondiale qui peut rien faire. Une centaine de ces diplomates sont pris en otage pendant plus d'un an. Donc il y a un ressentiment très fort. Il est difficile de trouver autrement que chez les intellectuels une sympathie américaine pour le droit. Alors à l'inverse, les intellectuels, les journalistes de bon rang sont absolument fascinés par moi. Moi, j'étais en poste là-bas. Quand j'étais en poste là-bas, il n'y avait pas d'ambassade américaine. Souvent, nous recevions les journalistes américains qui essayaient d'avoir un point de vue occidental sur l'Iran. Et ils étaient fascinés. Alors, je ne pense pas que Trump soit dans cette fascination qui suppose, un niveau de culture que je crois qu'il n'a pas. Après, comment ça va se passer? C'est très intéressant parce que je pense que les Iraniens ne peuvent pas ne pas réagir. D'une part, parce que pour leur fierté nationale, c'est un coup, et d'autre part, parce qu'il y a un énorme enjeu économique, hein, de réinsertion dans l'économie mondiale.
Et l'Europe non plus?
Comment?
L'Europe non plus ne peut pas ne pas réagir.
Non, et c'est pas trop comment. Ouais. Absolument. Et en même temps, j'observe une grande modération, moi, de la réaction iranienne à ce stade. Mais les décisions sont devant nous, devant eux. Donc, je ne sais pas. Ce que je crois, c'est que ça plonge le monde dans une crise très grave. Et je pense aussi qu'il faut lire cette crise en parallèle au miroir avec la décision américaine sur Jérusalem, qui est aussi une décision qui ne tient aucun compte des intérêts extérieurs aux États-Unis, à commencer par les intérêts des alliés, qui ne tient aucun compte du droit international, mais une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée par les États-Unis, enfin, qui a dit le droit. Là, on est vraiment dans la politique, je pense. On est loin de la politique.
Oui, bonjour, excusez-moi de mon retard. Emmanuel Dupuis, je suis membre du corps préfectoral et conseiller de la ministre des Outre-mer. Et collègue de l'Observatoire de la laïcité depuis midi. puisque j'ai été officiellement nommé ce midi.
Félicitations.
Et les bouteilles, elles sont
où
les bouteilles?
Est-ce que ton passage la semaine dernière,
a accéléré un peu le... En fait, Bianco m'a pris par le coup en me disant, bon, maintenant, il me faut un conseiller, il faut quelqu'un du ministère des Outre-mer. Donc, je suis allé voir le DIRCAP de la ministre en lui disant, bah, il cherche un... Ça, ça fait comme ça. Hein,
c'est un voisin de bureau. Parce que mon bureau est au 57 de l'Ordre de Paris.
D'accord, ben, je suis au troisième étage. J'avais deux questions, monsieur le conseiller, à vous poser. La première, vous évoquez en fait la distinction à faire entre justement le politique et le religieux, notamment dans le conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas si je parle au nom de tout le monde, mais nous, ce qu'on a ressenti aussi très fortement pendant notre voyage d'études en Terre Sainte, c'est également qu'on avait un dilemme des fondateurs de l'État d'Israël, qui était un dilemme aussi religieux, qui était qu'une modification notamment du corps électoral, vu la sociologie de ce petit pays, ferait que si la démocratie était réellement mise en place, ce ne serait plus un État juif. Mais par contre, si on veut maintenir le principe d'un État juif, ça ne peut plus une démocratie. Donc on a quand même une relation quand même très très fine entre la nature du régime, qui est quand même le fondement de la définition étatique, et son esprit religieux, même si le marxisme de Ben Gourion n'a pas grand-chose à voir avec certaines... envolées que l'on peut entendre chez certains ultra-religieux. Ça, c'était ma première question, c'était de savoir quelle était justement votre impression sur le poids du religieux dans l'évolution même de certains régimes étatiques. Et j'avais une deuxième question, qui s'en rapproche, mais pas tant que ça. Vous avez cité Boko Haram, qui en effet fait du recrutement essentiellement économique, qui va voir les miséreux. Et justement, on est ici, dans un ministère, où le cœur du sujet, c'est les relations interétatiques. Et comme vous avez été en poste dans certains endroits qui m'intéressent, puisque je suis originaire du ministère de l'Intérieur, vous allez vite comprendre de quoi je veux parler, comment peut-on agir contre quelque chose qui utilise la religion comme facteur d'influence, parfois avec un prosélytisme très clairement financé?
Alors, sur le premier point... Vous avez raison, il y a la contradiction fondamentale de la nature même de l'État d'Israël. Alors, quand on parle d'Israël, il faut toujours être extrêmement prudent, parce que c'est un État comme les autres, et ce n'est pas un État comme les autres, c'est les deux à la fois. Mais il y a une contradiction au départ de créer un État juif, donc ayant une référence religieuse, et là il faut tout de suite distinguer, parce que pour certains, être juif n'est pas une question de religion, mais une question d'appartenance à un peuple. Alors, c'est pas une race, c'est pas une ethnie, mais c'est une appartenance à un peuple qui est définie par une identité religieuse, même pour ceux qui ne sont pas religieux. Vous l'avez dit, Ben Gourion était sioniste, Ben Gourion était probablement agnostique, voire athée. Moi, je me souviens d'une discussion avec un diplomate israélien, c'était au début de ma carrière, il était en poste à Paris, il s'appelait Moshe, je ne sais plus son nom de famille, mais enfin, c'était Moshe, et je lui demande un jour dans la discussion, je lui dis, Moshe, est-ce que tu peux comprendre au moins l'attachement des Palestiniens à leur terre? Il lui dit non, parce que ce n'est pas leur terre, c'est cette terre nous a été donnée par Dieu. Enfin, moi, je me suis dit, la discussion va être un peu compliquée, on déjeunait ensemble. On va attendre le dessert. Et bien, un peu après, je lui ai dit, et toi, Moshe, est-ce que tu prends Dieu? Il dit, non, mais je suis agnostique. Et c'était le même homme. Et je pense que il incarnait bien cette contradiction que vous évoquez. Ce qui est clair, c'est que l'État d'Israël est de plus en plus sous l'influence religieuse. Les religieux, les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, dans toute leur variété, parce qu'il y a aussi, vous avez des ultras qui sont ultra-sionistes, vous avez des ultra-orthodoxes qui sont piétistes, on dirait, qui s'en fichent. Vous vous avez même des ultra-orthodoxes anti-sionistes. Hein.
C'est ça le problème du fondamentalisme.
Ah, Charine,
le groupe, enfin, c'est pas le seul problème, mais le groupe Natura et Carta, lui, est anti-sioniste. Mais ce qui est sûr, c'est que, notamment pour des raisons démographiques, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, la population orthodoxe et religieuse de l'État d'Israël est de plus en plus.
Ah ben, le Rav Kahn nous a tenu un discours contre l'État d'Israël. Enfin, c'est, en plein Moïse Charim, on était.
Contre la colonisation, contre l'État, non, mais contre la colonisation.
Mais les Natura et Carta considèrent que l'État d'Israël est un blasphème. Que l'État d'Israël a kidnappé, si vous voulez, l'idéal messianique. Et que un état juif, tant que le Messie n'est pas revenu, est un blasphème. Et donc moi je me rappelle d'avoir vu le chef de ce groupe. Alors ça peut paraître marginal, mais le rabbin Schneerson, qui est leur chef aux États-Unis, alors il est mort, hein, paix à son âme, mais quand il est venu à Jérusalem, il a rassemblé 200 000 personnes. C'était dans les années 95. Et je me suis fait à plusieurs reprises arrêter dans la rue à Jérusalem par des gens qui me donnaient du courrier à poster, disant qu'ils étaient étrangers, est-ce que vous pouvez emmener les lettres en France pour les poster en France pour qu'il n'y ait pas le timbre de l'État d'Israël, parce que ce timbre est un blasphème. Voilà. Alors après, sur l'autre question, si j'ai bien compris, ce qui est derrière votre question, c'est le rôle de certains États qui sont des États amis et partenaires et qui peuvent financer la prosélytisme.
Très amis et très partenaires.
Voilà. Alors, moi, ma position, si j'étais en place dans ce pays-là, je pense qu'il faut regarder les choses avec beaucoup d'attention, de finesse et de nuance. Alors, on est entre nous, donc on va nommer ces États.
Mais c'est bien pour ceux qui ne sont pas dans la diplomatie.
Comment ?
C'est bien pour ceux qui n'ont pas la
diplomatie. L'Arabie Saoudite. Voilà. L'Arabie Saoudite, dans un moindre degré, le Qatar. Alors, on va commencer par le Qatar. Moi, j'étais ambassadeur au Qatar. Je peux vous dire que j'ai passé 3 ans à interroger nos services de sécurité, les deux DG, et qu'ils m'ont toujours dit il n'y a rien. Il n'y a rien. En revanche, il peut y avoir des financements privés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement de l'islam extrémiste par le Qatar en France. Il peut y avoir des financements privés. Donc un des axes de mon travail pendant que j'étais ambassadeur là-bas, qui a abouti à une réforme de la loi qatarienne, était d'arriver à un meilleur contrôle. Et on a travaillé notamment avec l'ADTF et puis l'expérience de Tracfin pour aider les Qatariens à se doter de moyens de mieux tracer les financements soit de personnes privées, soit de fondations qui recueillent des dons privés et qui après financent des choses.
Ce qu'ils ont fait dans un souci de collaboration.
De prise de conscience. Parce que quand on dit que ces pays financent Daesh, c'est complètement absurde. Daesh veut renverser le pouvoir de ces pays. Donc l'Arabie Saoudite n'a jamais financé Daesh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des financements d'Arabie Saoudite qui ont pu un jour servir à Daesh de manière indirecte. Le vrai problème pour moi n'est pas tellement là. Le vrai problème, notamment avec l'Arabie Saoudite, c'est de savoir si l'islam wahhabite qui est diffusé par l'Arabie Saoudite est ou pas un islam qui favorise l'extrémisme. Et là, pour moi, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est un terreau idéologique qui est fondé sur le refus de l'altérité, sur l'intolérance vis-à-vis des autres, une conception extrêmement archaïque de la femme, une conception aussi ultra-littéraliste, si vous voulez, de la religion. Et donc, je pense que cette diffusion du wahhabisme qui a été favorisée par les moyens financiers de l'Arabie Saoudite a contribué, n'est pas l'unique cause, mais a contribué beaucoup à la situation actuelle. Et là, j'ai envie de vous dire, mais moi je prends la défense des Saoudiens. Parce que je ne pense pas que les Saoudiens aient été à l'origine d'un complot. Vous voyez, d'un complot, je ne pense pas qu'on puisse comparer ça à l'Union soviétique qui voulait diffuser l'idéologie soviétique dans le tiers-monde, dans une logique de domination et d'hostilité aux États-Unis. Dans beaucoup de cas, on est allé chercher l'Arabie saoudite. Alors, je vais vous donner trois exemples. Je suis allé en Égypte et j'ai été reçu par le grand imam d'Al-Azhar, qui m'a reçu en français, parce qu'il a fait un doctorat de philosophie à la Sorbonne dans les années 60. Alors, moi, le diplomate français, je rencontre l'imam d'Al-Azhar quand même, il me parle en français, je suis tout content. Je le félicite, il me dit, mais monsieur l'ambassadeur, je n'ai aucun mérite. C'est grâce à vous, grâce à la France. Je frétillais, j'ai eu une bourse du gouvernement français. Et puis là, il ajoute, c'était il y a 40 ans et j'étais le dernier, d'Al-Azhar, à avoir une bourse du gouvernement français. J'étais le dernier,
ouais.
D'Al-Azhar, à avoir une bourse du gouvernement français. J'étais, bon, voilà. Pas s'étonner si on a aujourd'hui un corps professoral à Al-Azhar qui est gangrené par le salafisme parce qu'il a été formé en Arabie Saoudite. Je veux dire par là que nous, on n'aurait jamais donné autant de bourses que l'Arabie Saoudite. On a baissé les bras. Le Quai d'Orsay donne des bourses dites de religion. Alors c'est des bourses pour des cadres religieux. Ce qui nous intéresse, c'est de la diplomatie d'influence. Je prends un exemple. L'imam d'Al-Azhar qui a fait son doctorat de philosophie à la Sorbonne, une bourse du gouvernement français. Bien joué, à l'époque. Si on avait donné une bourse à un jeune jésuite argentin il y a 50 ans, on aurait peut-être aujourd'hui un pape qui comprend mieux la France. Là, on a rappelé. Donc ces bourses, c'est de la diplomatie en France, et qu'il s'agit pour nos postes de repérer des gens qui vont avoir un jour dans le monde futur, dans leur domaine qui est celui de la religion, une influence considérable. Et nous souhaitons qu'ils soient imprégnés de nos valeurs. Je parle de français, ils sont imprégnés de nos valeurs. Moi, j'ai rencontré l'archevêque de... C'est pas Varsovie, c'est de l'autre côté du fleuve, de la Vistule. C'est un personnage considérable dans l'épiscopat polonais. Il parle un français parfait, comme vous et moi. Il a fait son doctorat de philosophie à la Cato, de théologie à la Cato à Paris. Il envoie tous ses prêtres se former en France. Donc on sème pour l'avenir. Là, on a arrêté. On a dit qu'il faut faire former des ingénieurs, des médecins, des philologues, ou je ne sais pas quoi. Finalement, on a abandonné le terrain. Deuxième exemple. Dans les années 70, le roi du Maroc,
c'est
Hassan
II. Pardonne-moi, c'est toujours pour elle.
Ben, on essaye de reconquérir le terrain maintenant. Donc il y a pourtant de nombre 45 bourses de ce type. L'an dernier, on en a donné 3. Cette année, j'ai pas donné 6. Mais dans un contexte budgétaire contraint, c'est compliqué. Alors, deuxième exemple, le roi du Maroc, qui n'est pas wahhabite, hein, qui est sunnite, malékite, le roi du Maroc dans les années 70, son problème de sécurité, c'était les Français. C'était les milliers de jeunes Français qui faisaient leur service militaire en coopération. Ils étaient profs de maths, profs de français, profs de sport, je ne sais pas quoi, mais ils étaient gauchistes. Ça inquiétait beaucoup le roi du Maroc. Et pour se protéger de cette influence gauchiste des Français 60 ans plus tard, il a réintroduit la religion dans le cursus, il n'y avait pas de propre religion, donc il est allé les chercher. Là où il y avait de l'argent, l'argent du pétrole, l'Arabie Saoudite lui a formé ses cadres religieux. Et aujourd'hui, avec le Maroc, on a une convergence de vue très très forte sur la nécessité de lutter contre cette influence wahhabite. Mais le mal est fait. Troisième exemple, dans les années 60, le roi des Belges, le roi Baudouin, c'est pas très catholique, se rend compte qu'il a désormais des musulmans dans son royaume. Une migration musulmane en Belgique est un peu plus tardive qu'en France, et elle est essentiellement marocaine. Et comme cet homme est un, on dirait dans les livres, dans les hagiographies, c'était un souverain droit et juste, et donc il a dit, mais vous avez maintenant des sujets qui sont musulmans, il faut qu'ils aient un lieu de culte. Mais comment faire? Il a eu une idée de génie. C'est l'Arabie Saoudite qui est le plus beau des pays musulmans, puisque c'est le lieu de la Mecque et de Médine, de lieu saint. Et donc la Belgique a signé un accord intergouvernemental avec l'Arabie Saoudite qui donnait à l'Arabie Saoudite la gestion de la responsabilité de financer, de construire et de gérer la grande mosquée de Bruxelles, dite du cinquantenaire. Donc là, si vous voulez, je prends la défense paradoxale de l'Arabie Saoudite, parce que on est venu la chercher. Et 50 ans après, on s'aperçoit que c'est catastrophique. Et donc c'est l'année dernière seulement, à la fin de l'année dernière, que la Belgique a dénoncé cet accord avec l'Arabie Saoudite. Et ce qui a été intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite n'a pas du tout fait un sujet. Parce qu'il y a actuellement quelque chose d'extrêmement intéressant en Arabie Saoudite depuis peu de temps, avec le nouveau prince héritier, on peut expliquer sur bien d'autres plans, qui est il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. L'Arabie Saoudite elle-même a été attaquée par le djihadisme, Al-Qaïda, c'est d'abord tourné contre l'Arabie Saoudite et contre la présence américaine en Arabie Saoudite. Et donc, voilà, ça rejoint le questionnement de mon ami musulman qui disait mais qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce que nous avons mal fait. Et je dis le nous, c'est pas seulement les musulmans, parce que les Belges, les Français avec les bourses, les Belges avec la mosquée de Bruxelles, les Marocains avec les profs de religion, je veux dire, on a tous à se poser ce genre de questions. Et donc, je pense que sur ces sujets, ces sujets doivent être à l'ordre du jour du dialogue bilatéral. On ne peut pas ramener la relation bilatérale à ce seul sujet, mais il doit être à l'ordre du jour. Et moi, je considère que la diplomatie, c'est l'art de construire des relations qui permettent, le jour où c'est nécessaire, d'aborder les problèmes. Si c'est simplement sur des câlins, c'est pas la peine. Donc, il faut pouvoir aborder ces sujets, mais les aborder d'une manière qui atteste qu'on n'est pas dans le préjugé ou dans l'hostilité de base. Donc il faut documenter. Donc ça c'est pour le ministère de l'Intérieur, pour le ministère de la Défense et pour nos services de renseignement. Parce que sinon, nos interlocuteurs nous disent mais je comprends pas, nous on fait pas attention. C'est la même chose quand on se plaint de l'accueil dans un service de visa français. Hein. On est très mal reçu au consulat à Beyrouth. Ou ailleurs. À Istanbul, j'étais consul général à Istanbul. On est très mal reçu au consulat. C'est un des interlocuteurs. D'accord, mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, je ne vais pas aller voir mes collaborateurs pour leur dire que vraiment des amis, c'est des mêmes gens. J'ai besoin de concret. Donc on a besoin de cette documentation et puis on a besoin de parler. Et moi, ce dont vraiment je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qu'ils ont joué avec le feu et que la créature leur a échappé. Après, est-ce qu'ils ont le logiciel intellectuel pour traiter ces questions, c'est un autre sujet. Et là, il y a un nouveau pan de coopération qui s'ouvre pour nous. Non pas, on ne va pas leur donner le logiciel religieux. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la France, République laïque, qui va dire ça c'est le bon islam, ça c'est le bon islam. D'ailleurs, ce serait très contre-productif. Ce qu'il faut avec la France, c'est pas le bon islam, parce que le tas de gens vivent. Mais nous pouvons lancer renforcer des coopérations pour ce dont, à mon sens, l'islam d'aujourd'hui manque largement, qui est l'approche historico-critique, la capacité d'avoir une approche, ce qu'on appelle en France les sciences religieuses, au sens de l'école pratique des études. C'est-à-dire que...
Travailler les textes.
Travailler les textes, travailler l'histoire, travailler le texte et le contexte. Le contexte spatial et le contexte temporel. Je suis très frappé quand on regarde le monde musulman, dans sa grande diversité, hein, qu'il y a souvent des confusions entre ce que les gens croient être des prescriptions religieuses et qui sont en fait des usages sociaux. Et ma grand-mère ne serait jamais allée à la messe, comme on dit, par grand cheveux. On n'allait pas, dans les années 50 ou 60, on n'allait pas à la messe grand cheveux. C'est pas une prescription religieuse, mais voilà, ça ne se faisait pas. Et moi, quand j'ai fait ma visite d'adieu à l'émir du Qatar en 2014, il m'a reçu, lui aussi en français, c'est encore un francophone. Et il m'a dit, mais quand vous parlez de nous, quand vous nous jugez, parce qu'après tout, vous avez le droit de nous juger, n'oubliez jamais une chose, monsieur le pasteur. Il m'a dit, nous sommes bédouins avant d'être musulmans. Voilà. Et donc là encore, c'est une question de discernement. Qu'est-ce qui, pour un croyant, relève vraiment de la foi, ou qu'est-ce qui relève d'une culture? Moi, c'est pas moi qui vais leur dire. Moi, je ne suis pas une autorité musulmane. En revanche, je pense que la France, parce qu'elle est la France, parce qu'avec son passé culturel, historique, académique, intellectuel, peut aider des pays, des sociétés, des individus à se poser la question. D'où aussi un volet... de nos efforts pour favoriser ce que j'appellerais sous le vocable général d'islamologie. Alors, on a eu une très grande école d'islamologie en France. Jacques Berck, Maxime Robinson, Louis Massignon, Louis Gardet. Et puis nos grands universitaires dans le domaine. Ils ont fait un peu comme mes collègues du Quai d'Orsay, ils ont fait de la politique. Gilles Kepel, c'est un politologue. Il connaît très très bien le monde musulman, plus l'arabe, parfaitement. Son approche, elle est une approche de politologue. Et donc, il y a une prise de conscience aussi aujourd'hui qu'il y a un besoin de réinvestir le champ au sens de l'école pratique de nos études, le sens religieux. Et dans une approche internationale, dans une approche de coopération internationale. Et avec des référents larges. Parce que quand on découvre le monde musulman dans sa diversité, on s'aperçoit que le monde musulman d'Indonésie, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, de l'océan Indien. J'étais aux Comores il y a un mois pour un colloque porté sur un grand savant musulman comorien que je ne connaissais pas il y a deux mois. Hein, que j'ai découvert avec ce colloque. Et je me suis découvert que là-bas et dans le monde de l'océan Indien, c'est quelqu'un qui s'appelait Mouni Baraka. J'essaie de remettre un peu sur le devant son influence, alors que l'islam comorien est touché lui aussi par le salafisme. Figurez-vous qu'aux Comores, la transmission de l'héritage se passe par les femmes. Évidemment, il y a peut-être des gens qui peuvent dire justement c'est horrible, heureusement qu'on est là, nous, pour remettre les choses sur le droit chemin, et notamment des comoriens qui viennent de France. Qui interviennent de France, plusieurs m'ont raconté l'histoire, ils insultent leur mère, ils ont été vus comment t'es habillé, et puis ton poulet, t'es sûr qu'il est halal, donc il y a une pression, et qui est totalement contraire à ce qui a été vécu pendant des siècles sur la dans cette culture. Et donc cette diversité des cultures peut aussi être redécouverte.
Une dernière question, je crois.
Qui est double aussi. Donc moi je suis Claire Hiver 5, je travaille chez BNP Paribas, je suis en charge du Moyen-Orient et de l'Afrique pour les entreprises. Ma question elle est double, il y a d'une part une question sur les origines de cette montée du fait religieux et de l'autre sur les solutions. Pour les origines, vous avez eu l'air de dire, ou si j'ai bien entendu et compris, que ça avait toujours existé dans la plupart des pays et que c'était plutôt chez nous qu'on avait un peu oublié l'importance du fait religieux. Je ne peux pas m'empêcher je vais vous prendre deux exemples, ces photos de Téhéran, justement, dans les années 70, ou de Bagdad, où on voit les femmes en mini-jupe, non voilées, sans aucun problème, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et pour moi, cette montée du religieux, j'avais l'impression qu'elle avait eu lieu un peu partout, pas seulement, je dirais, chez nous récemment, et qu'une des raisons, c'était avec la globalisation ou avec la mondialisation, la peur d'une perte d'identité nationale. Et que la religion faisant partie d'une culture, d'une tradition, c'était une façon de lutter contre une invasion d'un cinéma qui montre des traditions ou des organisations sociales qui ne leur correspondaient pas et dont ils ne voulaient pas dans leur pays, pour prendre cet exemple-là. Donc est-ce que vous partagez ce point de vue que c'est, je dirais, une conséquence de la globalisation et d'une volonté de protection de l'identité nationale qui a généré cette montée du fait religieux un peu partout. Et après, je passerai justement aux solutions. Comme vous l'avez dit, un conflit ne peut se résoudre que s'il y a des compromis et que c'est difficile de faire des compromis avec Dieu. Et je dirais, là, je mets toutes les religions dans le même bain. Quand vous parlez à la conférence des évêques et que vous leur demandez qu'est-ce que vous en pensez de ces lois qui sont contraires à la foi chrétienne, ils vous regardent droit dans les yeux et vous disent de tout temps il y a eu des martyrs. Vous parlez avec les musulmans, ils parlent également, il y en a certains qui n'hésitent pas justement à aller ce qu'eux appellent le martyr. Quelle est la solution à ce moment-là si on ne peut pas faire de compromis si on vous écoute, on se dit la seule solution c'est le chacun chez soi, chaque pays avec la religion, ce qui est à mon avis pas votre idée non plus, donc je voulais savoir quelle était la solution que vous envisagiez pour sortir de cette problématique où effectivement vous avez pas mal de personnes pour qui la loi civique passe après leur foi.
Je reviendrai à cette question, je vais les prendre dans l'ordre, mais d'abord il y a la solution. Déjà, je crois fondamentalement, quand les gens me disent la solution à la radicalisation, je décroche parce que je pense que c'est des phénomènes complexes. J'ai devant les yeux comme un orchestre symphonique ou tout le clavier du piano ou de l'orgue, disons.
Je voulais pas dire solution unique, mais peut-être c'est multiple, probablement.
Ce que vous disiez, alors c'est vrai, moi j'étais en Iran en 78, j'avais 19 ans, j'ai visité l'Iran du Shah, parce que mes parents avaient des amis iraniens, enfin voilà, c'était toute une histoire. Et alors, ce qui m'avait beaucoup frappé à cette époque, je m'intéressais déjà un peu à l'actualité et j'avais lu dans le journal qu'il y avait des troubles. Alors j'avais interrogé les amis de mes parents qui me disent non, après, c'est des histoires des journalistes. Les journalistes, ils ont excusez-moi pour le journaliste.
À chaque fois.
C'est la faute des journalistes.
Ces gens-là me disaient c'est les journalistes, ils ont besoin d'exister, donc ils racontent des histoires. Bon. Alors moi j'écoutais, j'étais un petit peu sceptique parce que ce qui m'avait frappé aussi, c'était que j'étais reçu dans les beaux quartiers de Téhéran, le whisky, la vodka, le champagne coulait à flot, on mangeait du caviar au petit déjeuner le soir, on avait une petite faim la nuit, on se levait du caviar. Et puis quand on allait en province, on rencontrait des villages qui étaient pauvres, qui n'avaient pas d'électricité, les gens ne savaient pas lire, le taux d'analphabétisme était considérable. C'est quelque chose qu'on a pu voir au Maroc, même si ça change un petit peu. Mais quand on voit au Maroc, il y a quelque chose d'étonnant entre le Maroc mondialisé, de Casablanca, des élites. Je me souviens, le directeur financier du Front Souverain du Qatar était un Français d'origine marocaine, un technicien complètement mondialisé. Et puis les villages du Maroc où il n'y a pas les services publics, il y a encore des enfants qui ne vont pas à l'école. Et donc, je pense que là encore, nous, occidentaux, on voyait ce qui était notre image, en quelque sorte. Donc, l'iranienne, très belle, habillée en mini-jupe, parce que c'était la mode de la mini-jupe. Et donc, il y avait... Moi, j'ai retenu, si vous voulez, pour ma gouverne personnelle, comme un avertissement, une expérience qui me dit, attention, ce que tu vois n'est que l'image... qui mérite qu'on aille un peu plus loin. Alors, deuxième élément de réponse, si on regarde le monde musulman, parce que c'est aujourd'hui c'est lui qui est sur le devant de l'actualité, je reprendrai l'histoire de l'arbre et de la forêt. Le terrorisme, l'extrémisme, le salafisme est évidemment un énorme problème qu'il faut traiter, mais c'est un problème où on a vu un courant de pensée religieuse qui a grandi. Et de surcroît, il est par définition visible, puisque le salafisme veut être visible. Et puis il est visible parce que quand il y a un mort en France, c'est hélas très visible. Et en même temps, le monde musulman, dans tous les pays où j'ai été, le monde où j'ai vu un monde qui est dans un... une transformation très profonde. C'est, moi j'ai envie de citer saint Paul, c'est les douleurs de l'enfantement, hein, monsieur le pasteur, sous votre contrôle, hein, les douleurs de l'enfantement au monde, à la modernité, au monde moderne, au Qatar, pays où elle habite, il y a aujourd'hui des femmes qui disent non, moi je ne me marie pas si c'est mes parents qui choisissent mon mari. C'est pas une, hein, c'est... Vous avez, plus étonnant encore, des parents qui trouvent ça normal que leur fille d'aujourd'hui leur dise ça. Ça n'empêche pas les gens d'être en déchetage blanche, peut-être d'avoir la barbe, ils observent le ramadan, mais il y a cette libération. Aujourd'hui, les femmes sont majoritaires à l'université du Qatar. Et elles demandent à travailler, et les jeunes sont sur Internet, ils vont étudier ou voyager en Europe, aux États-Unis, ils voient autre chose. Et donc là, il y a une découverte de la modernité, de ce monde comme le nôtre, hein, finalement. Mais c'est vrai que ça suscite une inquiétude d'une catégorie de la population pour des motifs identitaires. On est en train de perdre notre identité, on ne saura plus qui on est, on perd nos valeurs, ou pour des motifs de pouvoir et de contrôle sociétal. Et donc je pense que ce bouillonnement, on a la même chose avec les intellectuels. Moi, je vous parlais de la sclérose intellectuelle d'Al Azhar. Mais je pourrais vous parler du nombre considérable d'intellectuels musulmans qui se posent des questions, qui écrivent, qui réfléchissent, qui se rencontrent, qui publient. En Tunisie, par exemple, mais pas seulement, en France. Quand Olivier Roy dit « le renouveau de l'islam viendra peut-être de France », il provoque un peu la France laïque qui est la nôtre. Mais il dit quelque chose qui est pas complètement dénué de sens. Et donc la difficulté, c'est de voir les deux, quoi, de voir qu'il y a et qui, à bien des égards, est dangereuse. Et puis, c'est cette société bouillonnante qu'il faut accompagner. Mais accompagner, c'est accompagner, ça veut dire diriger. Puisque la France peut avoir une diplomatie d'influence, c'est important que nos instituts culturels soient ouverts à ce monde. Moi, je trouve ça génial quand je vais à l'étranger, que je fais une conférence à un institut français, de voir comme ce lieu est un lieu où les gens viennent, débattent, se rencontrent. Ça, c'est une vocation de la France. Oui. Alors, l'autre question, excusez-moi.
Les solutions,
c'est l'avenir.
Oui. L'avenir. Comment on sort de, ou comment on trouve un compromis avec des gens qui n'en veulent pas?
Vous aurez peut-être toujours des gens qui n'en voudront pas, mais je crois qu'il faut revenir à peut-être.
Et qui mettent la loi civile en dessous de la loi de leur foi.
Alors ça, je pense que c'est une mauvaise question, parce que moi je suis très sévère pour l'enquête de l'Institut Montaigne, parce qu'elle est faussée sur ce sujet. Vous demandez à n'importe quel croyant, que bien sûr il vous dira que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Bien sûr, bien sûr. Et donc on dit, il y a 40% des musulmans qui pensent ça, c'est normal. Allez interroger à la sortie d'une messe, tout le monde vous dira ça.
Oui.
Bon, et ça n'empêche pas que tout le monde respecte la loi civile. Donc la question de l'Institut Montaigne,
tout le monde ne respecte pas la loi civile.
L'immense majorité. Donc vous pouvez très bien penser...
Le polygamisme n'est pas forcément respecté, en France.
En fait, tous les musulmans en France ne sont pas polygames.
Non, voilà, c'est pas tous.
Les musulmans des pays musulmans ne sont pas non plus polygames.
Polygames, c'est quand même des mouvements...
Oui, mais il y en a...
Et vous avez des Français qui sont polygames par
d'autres moyens. D'autres motifs.
La polygamie, simultanée, la polygamie successive, enfin bon, on peut partir...
Je suis d'accord, cet exemple est polémique, mais...
Ce que je veux dire, c'est que...
Tout le monde le fait pas.
Il y a, chacun pense ce qu'il veut de la loi, mais la loi est la loi. Et d'où l'importance que la loi soit juste, et que la loi respecte autant que possible la liberté.
C'est-à-dire que la loi s'applique, c'était l'actualité d'aujourd'hui. Que la loi s'applique dans tous les territoires où elle doit s'appliquer.
Oui, oui, absolument. Mais si par exemple, le Parlement a voté la mise en œuvre du mariage de même sexe, après, vous faites ce que vous voulez selon votre conscience. Et ça s'appelle la liberté. Ça s'appelle la liberté de conscience, la liberté de religion ou de conviction.
Mais si vous prenez cet exemple-là, vous avez des maires pour qui ça pose un problème.
Mais je respecte que ça leur pose un problème. Je respecte aussi. Je pense que il faut admettre que la loi soit la loi. Mais moi, je vais vous dire, si un maire dit ce mariage, j'ai pas très envie de le célébrer, et il demande à son premier adjoint, est-ce que toi tu peux le faire, et pour moi, il n'y a pas de quoi renverser la table. Vous voyez, la conscience des gens doit aussi être respectée. La loi a le dernier mot, mais la mise en œuvre de la loi doit aussi permettre... je me souviens d'un débat, je ne sais plus quel évêque, je pense que c'était le président de la conférence des évêques qui avait critiqué la loi après qu'elle ait été votée. Et je pense que c'était Monseigneur Pontier. Et il y a eu des éditoriaux, c'est scandaleux, la loi est la loi, maintenant qu'il ferme sa gueule. Non, il a le droit de dire que cette loi n'est pas juste. La question, c'est que la loi s'applique. La loi s'applique, un Parlement peut la changer aussi, mais si un Parlement peut changer la loi, peut la modifier, la compléter, introduire une nouvelle loi, ça veut dire qu'il doit y avoir un débat. Donc il est légitime aussi de critiquer une situation législative. Mmh. Moi, je pense que donc il n'y a pas la solution. Il faut revenir aux valeurs, les valeurs de la République. Moi, je trouve que nos ancêtres, quand ils ont dicté liberté, égalité, fraternité,
particulièrement bien assumé, parce que ça a beaucoup de sens. On sait très bien aussi que la liberté rencontre l'ordre public. On sait très bien que l'égalité est un idéal et que la fraternité plus encore. On a du mal à la mettre réellement en œuvre. Il n'empêche que c'est pas mal pour une société de tendre vers un idéal. C'est peut-être plus stimulant que si on y était arrivé. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut, sur les sujets concrets, il faut analyser avec c'est une histoire de discernement. On analyse avec attention, avec réflexion. Il y a une dame en burkini sur la plage. La question n'est pas est-ce que ça vous plaît. La question c'est est-ce qu'il y a un problème.
Est-ce que ça contrevient aux valeurs de la République.
C'est toujours la même. Enfin, pour moi, la problématique, c'est est-ce que c'est contraint ou pas contraint. Si la personne n'a pas le choix, ça contrevient à la. De la même façon quand on est une femme et qu'on peut pas s'habiller comme on veut dans certains quartiers. C'est la même chose.
Est-ce que les enfants des camps nudistes, ils sont contraints ou pas?
Ouais. Non, mais.
Et c'est compliqué parce que c'est difficile pour la puissance publique d'entrer dans le fort intérieur. C'est la question de fort intérieur qui est inviolable. Dire à une femme est-ce que tu es contrainte ou est-ce que tu n'es pas contrainte, c'est compliqué parce que la situation.
Ou incité. Ou incité. Rémunéré.
Ça arrive. Je crois qu'une des clés que vous avez dit, c'est la connaissance. Oui. Que les religieuses soient mieux représentées effectivement dans un cadre laïque de telle sorte qu'on puisse en permanence une discussion nourrie, rééclairée en permanence.
Connaissance et discernement.
Ouais.
On va rester là-dessus.
Merci.